Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux pour continuer avec le Père José Willibald Michaud à Maritsou, notre lecture cursive de Saint Jean. Nous en sommes au chapitre 12. C'est le dernier chapitre avant la scène qui commencera donc au chapitre 13. Et c'est un chapitre qui est un peu charnière. En effet, nous venons de voir au chapitre 11 Jésus qui affronte la mort avec la scène de Lazare. Alors, ce qui frappe d'emblée dans cet ensemble du chapitre 12, c'est cet assemblage de scènes apparemment très différentes. La première scène, c'est donc l'onction de Béthanie. Ensuite, c'est l'arrivée triomphale à Jérusalem. Et le chapitre se termine par un discours assez grave avec quelques grands thèmes comme par exemple « L'heure est venue » et puis on voit Jésus se troubler. Et tout ça est conduit par le grand motif de l'élévation. Nous allons le voir tout à l'heure. Et puis, il y a le grand thème de la lumière. Vous vous plaisez, Père José, à dire que ce chapitre 12 est traversé par un contrepoint, le contrepoint de la vie et de la mort. Alors nous allons entrer dans ce chapitre 12. À la fin du chapitre 11, il y a quelques versets qu'il faut ajouter. Je vais lire donc à partir du chapitre 11, verset 55, jusqu'au chapitre 12, verset 11. Cependant, la Pâque des Juifs était proche. À la veille de cette Pâque, beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et, dans le temple où ils se tenaient, ils se disaient entre eux « Qu'en pensez-vous ? Jamais il ne viendra à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer afin qu'on se saisisse de lui. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où se trouvait Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. On y offrit un dîner en son honneur. Marthe servait, tandis que Lazare se trouvait parmi les convives. Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Alors Judas l'Iscariote, l'un des disciples, celui-là même qui allait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il parla ainsi, non qu'il eût souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y déposait. Jésus dit alors « Laisse-la, elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Cependant, une grande foule de Juifs avait appris que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus lui-même, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. Les grands prêtres, dès lors, décidèrent de faire mourir aussi Lazare, puisque c'était à cause de lui qu'un grand nombre de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus. Alors, Père José, on voit bien ce contexte hostile, et puis cette scène d'intimité, et puis de nouveau l'envahissement de la foule, et de nouveau le contexte hostile.
Cette décision de faire mourir Lazare, elle est paradoxale. Il vient de mourir, et ils veulent le retuer. Je trouve ça assez ironique. Ça. Donc c'est toujours ici ce jeu entre l'amour, même manifesté par le geste de Marie, et plus que la haine, l'acharnement des grands prêtres et des juifs à traquer Jésus, et à cause de lui, Lazare.
Traquer celui qui, justement, est mu par l'amour.
Oui, aussi, bien sûr. Il y a tout le temps ce jeu entre l'amour et la haine ici, tout le temps.
Alors, ce qui est impressionnant ici, c'est le geste de Marie. Ce n'est pas un grand discours, c'est un geste, et puis c'est un parfum, Père José.
Tout à fait. Il n'y a pas une parole. Marie ne prononce aucune parole.
Et nous voyons que cette maison, c'est important, la maison dans l'Évangile, oui. Je pense, cette maison est envahie littéralement. Oui. Qu'est-ce que cela signifie ?
Elle fut emplie par la senteur de ce parfum. Là, c'est évidemment le parfum de la dernière heure, le parfum de l'amour, de la mort et de l'embaumement de Jésus.
Mais le parfum, ce n'est pas aussi le Cantique des Cantiques qui vous est si cher ?
Ah ça, Marie est liée au Cantique des Cantiques, hein, ça c'est certain.
Donc il y a ici un contrepoint entre le Cantique et puis la mort.
Oui, la vie et la mort.
L'amour et la mort dans la littérature, dans la grande littérature finalement, c'est un thème qui est fréquemment croisé.
Oui, tout à fait, oui. Ah, c'est un thème majeur. Vous faites bien de rappeler le Cantique des Cantiques, parce qu'il est présent, il est présent.
Alors, il y a aussi en contrepoint quelque chose de qui est acide, qui est mesquin en quelque sorte, et puis qui est dénoncé par l'évangéliste, c'est la remarque de Judas Iscariote. Oui. On aurait pu le donner aux pauvres, mais l'évangéliste ajoute, il parla ainsi, non qu'il eût souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Donc, cette mesquinerie-là contraste violemment.
Tout à fait. Et ce contraste, on le retrouve un chapitre plus loin, au début du grand discours, quand les disciples disent à Jésus « Mais qui va te trahir ?» et que Jésus le désigne par la bouchée qu'il partage avec Judas. Puis il lui dit « Ce que tu dois faire, fais-le vite. » Et alors, le malentendu s'installe de nouveau, et les disciples crurent que Jésus lui disait « Va vite donner aux pauvres ce que tu dois donner. » Et c'était au contraire partir pour accomplir sa trahison. Et c'est alors que l'évangéliste, dont la plume est merveilleuse, conclut en disant « Il faisait nuit ».
Il faisait nuit.
La nuit se referme autour de la scène avec cette bouchée que Judas a prise.
Mais l'évangéliste souligne à ce moment-là, nous y viendrons bientôt, à quel point les disciples ne comprennent pas ce qui se passe véritablement. Alors il y a aussi ici, ce qui est très important, c'est une sorte de discours. Est-ce que c'est un discours mélancolique ? Laisse-la, elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. Et puis il ajoute cette phrase un peu curieuse, qui a souvent été mal interprété, « Des pauvres, vous en aurez toujours. Oui. » Alors ici, Jésus est-il une fois de plus, et on le voit peut-être de plus en plus à mesure qu'on avance dans l'Évangile, troublé véritablement ?
Et on l'a dit qu'il était troublé. Non, c'est juste après qu'on va le dire, mais Jésus est troublé. Oui, et cette phrase est étonnante. « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. » Ça, c'est tout à fait étonnant. Mais moi, vous ne mourrez pas toujours, donc l'annonce du départ, nécessaire. Donc, profitez bien de l'amour, parce que je ne suis plus avec vous pour très longtemps.
Et le sens ultime de cette scène, Père José, est-ce que ce n'est pas finalement le fait que Jésus ici se laisse aimer ?
C'est vrai. C'est vrai que Jésus se laisse aimer. Tout cet ensemble est dominé par le thème de l'amour et le contrepoint entre l'amour et la haine. C'est le jeu de ce récit.
Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que aimer, c'est certes donner, mais c'est aussi recevoir.
Ah, bien sûr, c'est vrai. Mmh. Ah, Jésus se laisse aimer, oui, c'est une très belle expression.
Et donc, nous concluons cette petite scène par le retour de la foule et le retour du danger. Oui. Parce qu'on a l'impression que l'étau se resserre.
Oui, tout à fait.
Et par contraste, et de nouveau par contrepoint, c'est l'arrivée triomphale à Jérusalem, cette scène bien connue de ce roi sur un ânon,
oui,
ce qui est absolument magnifique. Alors, je la lis pour rappel, à partir du verset 12.
Oui.
Le lendemain, une grande foule venue à la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, le roi d'Israël !» Trouvant un ânon, Jésus s'assit dessus selon qu'il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient, il est monté sur le petit d'une ânesse. » Au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet et que c'était cela même qu'on avait fait pour lui. Cependant, la foule de ceux qui étaient avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et qu'il l'avait relevé d'entre les morts lui rendait témoignage. C'était bien, en effet, parce qu'elle avait appris qu'il avait opéré ce signe qu'elle se portait à sa rencontre. Les pharisiens se dirent alors les uns aux autres « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien, voilà que le monde se met à sa suite. » Alors c'est le triomphe ici, et c'est une scène bien connue dans l'iconographie, hein, bien entendu, et dans notre imaginaire. Et on a l'impression que tout ça s'improvise un petit peu, Père José.
Ici, dans le récit, oui, c'est vrai que c'est... De nouveau, c'est du contrepoint, puisque c'est le triomphe paradoxal dans un contexte de haine, de complot. C'est une scène assez peu connue, enfin, on la trouve dans la Genèse quand même, et dans Zacharie. Hein.
Vous voulez parler de l'allusion à l'ânon.
À l'ânon. C'est la seule scène qui présente un roi obscur, effacé, et qui fait son entrée joyeuse dans l'appareil le plus simple, une petite monture de hasard.
L'appareil le plus simple, Père José, comme je me plais à le souligner, Jean est certainement un bon écrivain, on se rend compte qu'au chapitre 13, sans vouloir trop anticiper, mais Jésus va laisser ses vêtements pour laver les pieds à ses disciples. Il y a une sorte de dépouillement, une révélation de Jésus sur un ânon, et puis plus tard, simplement comme serviteur. Voilà, ça je pense que tout ça, c'est dans la progression.
Jésus serviteur, c'est un thème cher à l'évangéliste. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, mais eh bien, ce que je vous ai fait les uns aux autres, faites-le à votre tour.
Voilà, c'est véritablement la révélation d'un Dieu inattendu, hein, pour le coup.
L'inattendu, c'est un des noms que j'aime bien donner à Dieu.
Oui. Oui, ça revient un petit peu ici à cet étonnement devant ce roi sur un ânon, finalement.
Tout étonne dans Jésus à partir d'ici, tout jusqu'à la passion.
Eh bien, nous voilà avec un maître mot, tout étonne dans la passion, et de plus en plus, nous allons faire une petite pause musicale avec un quatuor du jeune Beethoven, l'opus 18, numéro 1. Thank you. Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive du chapitre 12 de Saint Jean. Nous avons parcouru à la fois l'onction de Béthanie et l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alors, la suite et la fin de ce chapitre 12 est particulièrement intéressante parce qu'il y a l'ouverture au monde, parce que certains Grecs demandent à voir Jésus. Je lis ce chapitre-là à partir du verset 20. Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée. Et ils lui firent cette demande : « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, et ensemble ils le dirent à Jésus. Jésus leur répondit en ces termes : « Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. » Alors une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » La foule qui se trouvait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient qu'un ange lui avait parlé. Jésus reprit la parole. « Ce n'est pas pour moi que cette voix retentit, mais bien pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Je propose que nous arrêtions là parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Et donc, il y a des Grecs qui veulent voir Jésus et ils s'adressent à Philippe. Philippe, qui est un nom grec d'ailleurs.
C'est déjà l'ouverture vers l'universalisme. Et avec Philippe et avec les Grecs. Mais ce qui me frappe ici, évidemment, c'est cette phrase. Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc ce thème de la glorification émerge du contexte de la persécution, du grain de blé écrasé pour porter du fruit. Et Jésus est comme troublé par ce contraste. Mon âme est toute troublée. Et puis alors, cette prière qu'on ne rencontre que deux fois, « Père, sauve-moi de cette heure. » Et Jésus va répéter ça au moment de sa passion. Il va prier le Père d'écarter l'épreuve de lui. Jésus prie pour échapper à l'épreuve.
C'est déjà bien ce qu'on connaît sous le nom de agonie. C'est vraiment ce combat, cette peur, panique.
Tout à fait.
Père José, vous venez de le souligner, il y a une sorte de glorification paradoxale. C'est le grain qui meurt et qui donne du fruit, d'accord. Mais il y a une mort et la glorification passe par la mort.
Tout à fait. Et alors Jésus donne cette explication. C'est pour vous que cette voix retentit. Car c'est maintenant le jugement du monde. Qu'est-ce que c'est que le jugement ? C'est le moment où la vérité ultime est révélée. Et donc, cette apparente défaite de Jésus est la défaite du prince de ce monde. Le paradoxe est affirmé de la façon la plus claire. Mais la phrase la plus dominante de tout ce récit, c'est « Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Jésus doit être arraché à la terre pour entrer dans le mystère des cieux. Et il disait cela pour indiquer le genre de mort qu'il devait subir, c'est-à-dire être élevé, arraché de la terre par la croix.
Être arraché la terre, est-ce que ça veut dire qu'au fond, ici, Jésus est déjà en train de dire qu'il est le premier né d'entre les morts, le premier à avoir traversé la mort de cette façon ?
Implicitement, oui. C'est implicite, mais c'est clair. D'ailleurs, la foule réagit en disant « La loi nous a appris que le Messie demeure à jamais. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Et alors, Jésus apporte une dernière affirmation d'identité. Je suis la lumière. Je suis la clé de la vérité. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Et puis, il se dérobe à leurs yeux.
Oui, c'est assez intéressant de voir quelle subtilité d'écriture. Il dit qu'il est la lumière, que la lumière brille et qu'il est important de croire en cette lumière. Et puis tout de suite, il se cache. En fait, c'est les hommes qui ne veulent pas de la lumière.
Oui, c'est absolument. Oui, c'est une phrase que l'Évangile répète depuis le prologue, d'ailleurs.
Et nous allons lire la fin de ce chapitre où il y a toute une série de considérations sur l'incrédulité, justement, ce qui est un thème fort important. Je lis à partir du verset 37. « Quoiqu'il eût opéré devant eux tant de signes, ils ne croyaient pas en lui, de sorte que s'accomplit la parole que le prophète Ésaïe avait dite. « Seigneur, qui a cru ce que nous avons entendu dire, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Le même Ésaïe a indiqué la raison pour laquelle ils ne pouvaient croire. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se convertissent pas, et je les aurais guéris. Voilà qui est tout de même une déclaration étonnante.
Depuis toujours, hein, ce texte fait problème. Mais là, il faut revenir à la logique juive. Le même mot désigne « afin que » et « de sorte que ». Vous avez bien traduit par « de sorte que ». Donc, il ne s'agit pas d'un but, mais d'une conséquence. C'est autre chose. Isaïe constate là le fait de l'incrédulité des Juifs et il dit « même ça n'a pas pu échapper à la volonté du Seigneur ». Mais non pas comme un but, mais comme un constat. Le constat est d'une conséquence.
Le constat de l'endurcissement.
Oui.
Autrement dit, le constat de l'échec de Jésus. Jésus heurte ici à des limites.
Oui, sûrement. Ah, bien sûr, c'était un échec. Hein. En un certain sens, la fin de Jésus est un échec.
Et c'est cet échec qui va être retourné, justement.
Oui, exactement. Exactement.
Et c'est ça le sens du mot résurrection.
Oui, du mot résurrection et du mot glorification.
Et quelque chose qui vous tient à cœur, Père José, c'est cette glorification dans le mouvement ascendant, vers l'ascension.
Sûrement. Hein. Donc, la montée en croix coïncide avec l'ascension, la montée aux cieux et l'entrée dans la lumière plénière.
Et c'est cette montée que nous allons vraiment suivre maintenant pas à pas. Dans la prochaine émission, chers auditeurs, nous allons entrer dans le chapitre 13. C'est le début du récit de la Pâque. C'est le début de la Passion au sens large. Ce sera d'abord la belle scène du lavement des pieds. Et c'est là-dessus que je vous laisse avec Beethoven, son Quatuor à cordes opus 18, numéro 1. Au revoir, à bientôt.